et de la vie, une émission créée par Fania Pérez, conçue et présentée par Francine Shapiro.
Bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai présenté sur Radio Judaïque FM mon coup de foudre pour une exposition hors norme à la mairie de Paris pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. Ce soir, j'ai auprès de moi M. Jean-Claude Kupermink, directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance. M. Kupermink, bonsoir.
Bonsoir, Francine.
M. Kupermink, ma première question portera précisément sur cette exposition que j'ai trouvée extraordinaire. Comment est-elle née ?
Il n'est évidemment pas commun pour une institution d'atteindre les 150 ans d'existence, donc il fallait marquer le coup, si j'ose dire. Donc l'Alliance israélite universelle a souhaité prendre l'occasion, l'opportunité de cette année 2010, donc 150 ans après sa naissance en 1860, pour se promouvoir, se faire connaître et reconnaître, parce que malheureusement on a souvent l'impression que l'Alliance israélite universelle est une vieille dame, dont on a peut-être un petit peu entendu parler, mais qui n'est plus très active. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est un centre d'éducation en France, en Israël et dans d'autres pays du monde, au Maroc en particulier, toujours très vivante. Donc, il fallait attirer l'attention sur l'Alliance. Et pour ça, une exposition semblait être un excellent moyen, car il nous permettait à la fois de retracer l'histoire très riche et vraiment tout à fait extraordinaire de l'implication de l'Alliance dans le bouleversement des communautés juives d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en même temps de préparer et de présenter nos projets d'avenir et d'essayer de faire connaître cette Alliance, cette institution aujourd'hui au public communautaire, mais aussi à un public beaucoup plus large. C'est pourquoi la mairie de Paris a eu la grande gentillesse d'inviter l'Alliance à préparer une exposition dans ses locaux, dans les grands salons de la mairie de Paris, très majestueux, avec une entrée sur le parvis. Donc, pendant 6 semaines, les Parisiennes et les Parisiens ont eu l'occasion de voir les développements de l'Alliance sur ces 150 dernières années.
C'était vraiment un lieu emblématique. Et dans quelle mesure, précisément, considérez-vous cette exposition comme un succès ?
Cette exposition a d'abord été un travail extraordinairement long et fécond avec l'équipe de la bibliothèque, avec Ariel Danan, avec Raoul Belaïch, avec Christian Michel de la mairie de Paris qui a été très, très important, avec les rédactrices Anne-Sophie Dreyfus, Cécile Desprairies, avec une graphiste Sandra De Almeida, toute une équipe qui s'est donné beaucoup de mal pour essayer en finalement peu de place et peu de panneaux de rendre compte de toute cette histoire. L'expo présentait aussi des photographies et des vidéos montrant la richesse extrême de nos archives. Je pense que l'expo est un succès dans la mesure où elle a effectivement rencontré une très forte appréciation de tous ses visiteurs. Le livre d'or nous confirme que beaucoup de gens sont venus là, soit parce qu'ils étaient déjà des familiers de l'Alliance, c'était leur histoire, celle de leurs parents, et d'autres ont découvert l'Alliance, et là c'était vraiment une surprise pour eux de voir qu'une institution née en France a pu avoir une influence si grande sur les Juifs dans de très nombreuses parties du monde. Donc un succès, peut-être pas assez médiatisé, mais ça c'est toujours la grande discrétion malheureusement de l'Alliance à laquelle nous essayons de nous attaquer aujourd'hui. Mais je pense que les comptes rendus et les réactions des spectateurs ont été très positives.
Et alors, plusieurs prolongements sont prévus pour cette exposition de 150-naire. En premier, j'ai vu un livre qui paraît une véritable somme sur l'histoire et l'œuvre de l'Alliance. Et je me rappelle avoir vu le livre du cinquantenaire qui a été publié, je crois, en 1911, et celui du centenaire aussi. Monsieur Kupermink, pouvez-vous nous en dire davantage à la fois sur cette tradition de livre anniversaire dans lequel s'inscrit cette nouvelle publication sur l'Alliance et sur ce que celui-ci, qui est consacré aux 150 ans, apporte de nouveau par rapport aux précédents qui ont scandé les grandes dates anniversaires de l'Alliance.
On pourrait dire que l'Alliance, dans sa modestie, n'encombre pas trop les rayonnages des bibliothèques, avec un livre tous les 50 ans. C'est effectivement un rythme très majestueux. En fait, pour cette année, dans le cadre des célébrations du 150 ans que le professeur Steg, président de l'Alliance, avait confié à Mark Heisenberg, son vice-président, une des actions a été d'aider à la publication de ce livre qui est paru aux éditions Armand Collin. L'idée était d'évoluer, bien sûr, tous les 50 ans, il y a de nombreuses découvertes historiques et les points de vue changent. Et alors que le premier livre avait été signé par Narcisse Levène, un des fondateurs de l'Alliance et un des acteurs, finalement, de ses premières années de l'Alliance. Il était paru effectivement pour les 50 ans. Le second a été écrit, rédigé par André Chouraki, qui était délégué général de l'Alliance, qui a eu un grand rôle dans les années 50 en particulier. Et ce second livre a permis le classement des archives de l'Alliance qui ont servi de support à l'écriture de ce second livre du centenaire en 1860. Depuis 1965, la parution de ce livre et l'ouverture des archives, de très nombreux travaux d'historiens ont pu voir le jour, et des historiens français, israéliens, américains, marocains, tunisiens, iraniens même, ont pu aborder tous les aspects de l'histoire de l'Alliance, localement et du point de vue politique. Donc c'est de tout ça que le livre paru aux éditions Armand Collin, sous la direction d'André Caspi et coordonné par Valérie Hassan, rencontre aujourd'hui.
Donc c'est un livre collectif qui est extrêmement intéressant. Il suffit de voir la table des matières. C'est un parcours critique et non seulement historique, mais critique situant l'action de l'Alliance dans le monde, son rôle politique même. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C'est une somme, effectivement. On a essayé d'en faire un ouvrage de référence à l'usage, bien sûr, des étudiants, mais aussi d'un plus large public. On a essayé de le rendre le plus accessible possible. Et il adresse un certain nombre de questions dans l'histoire de l'Alliance, son rôle politique et diplomatique, en particulier autour du Moyen-Orient, mais aussi de tout l'Empire ottoman, la relation de l'Alliance avec le monde religieux, la relation très controversée et très difficile finalement à aborder de l'Alliance avec le mouvement sioniste, les innovations apportées dans les dernières années, donc dans les 50 dernières années, si j'ose dire, dans le parcours de l'Alliance israélite universelle. Et je pense qu'à travers ce livre, on voit que l'Alliance est à la fois une force, mais aussi qu'elle recèle une capacité d'adaptation énorme, puisqu'elle a dû, au cours de ces années, faire face à deux guerres mondiales, à un bouleversement total de la géographie, de la sociologie et de la démographie juive dans le monde. Donc aujourd'hui, bien sûr, au XXIe siècle, nous n'avons plus affaire à la même alliance triomphante d'avant la Première Guerre mondiale qui installait ses écoles un peu partout autour de la Méditerranée, mais nous avons affaire à une alliance qui donne du sens et de la connaissance juive encore à des enfants, mais aussi à des adultes, dans les pays occidentaux, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, mais également qui participent en Israël au rapprochement entre les mondes laïcs et religieux, et qui a encore un pied de présence en terre d'islam avec ses écoles au Maroc.
Alors nous allons marquer une première pause musicale avec un disque qui est une édition de l'Alliance, un CD-ROM, s'appelle Trésor des chants et musiques du monde, interprété par Marlène Semoud, et nous commencerons par un chant de mariage judéo-marocain.
Hebiyari anana
Monsieur Jean-Claude Kumperming, pour en revenir à ce très très bel ouvrage, on est frappé par le côté novateur, presque, je dirais presque visionnaire de l'alliance dans la construction européenne, la place donnée aux femmes. Pouvez-vous nous en dire
C'est vrai que l'Alliance a été un vecteur de modernité, c'était bien son but, hein, apporter l'émancipation offerte par les droits de l'homme et les principes de 1789 au judaïsme du monde entier. Et à travers ça, c'est vrai qu'elle a été une des premières organisations qu'on pourrait appeler non gouvernementale aujourd'hui. Elle a proposé des actions politiques et diplomatiques au niveau des différents gouvernements européens, évidemment dans une Europe très différente de celle d'aujourd'hui, celle d'avant la Première Guerre mondiale et éventuellement d'entre les deux guerres. Elle a apporté aussi des bouleversements dans les familles juives, en particulier avec l'émancipation des femmes, avec l'éducation offerte aux jeunes filles. Il y a là un article de l'historienne américaine Frances Malino qui suit l'évolution d'une famille sur plusieurs générations qui ont été très influencées par l'Alliance. Mais on parle aussi dans ce livre de choses moins connues, la manière dont l'Alliance a pu se porter au secours des Juifs de Russie au moment des grands pogroms et des grandes migrations de la fin du 19e siècle, la manière dont l'Alliance a été la cible finalement d'un antisémitisme français bien particulier. On sait peu que dans la France juive de Drumont, le grand ouvrage malheureusement très très populaire dans les années 1886 et ensuite en France, tout un chapitre est consacré à Adolphe Crémieux et l'Alliance. Ils sont vraiment le symbole de cette modernité refusée par beaucoup. Et il y a des pages très novatrices aussi sur le rôle de l'Alliance face au sionisme et l'existence et la survie de l'Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et alors, précisément, en me plongeant dans ce volume, j'ai découvert des pages tout à fait surprenantes sur les rapports pendant la guerre entre l'UJIF, l'Alliance et le gouvernement de Vichy. Pouvez-vous en dire
alors, pour faire un point, pour essayer de faire un point rapide sur cette question. L'Alliance est donc très connue et très appréciée des services du ministère des Affaires étrangères depuis sa création, en tout cas depuis l'extension de son réseau scolaire. Il y a au sein de ce ministère un service qui s'appelle le service des œuvres françaises à l'étranger, qui soutient très fermement l'Alliance dans toutes ses actions. Financièrement et qui participe aussi aux inspections, au contrôle, si j'ose dire, de la rigueur de l'enseignement et dont les rapports sont toujours très positifs aux différentes écoles de l'Alliance dans le monde. Donc on a ces fonctionnaires qui suivent depuis longtemps l'action de l'Alliance, qui se retrouvent au sein du gouvernement de Vichy après la catastrophe de 1940 et qui proposent et sont persuadés que le rôle de l'Alliance dans l'influence de la langue française et de la France est suffisamment important pour que même le gouvernement antisémite de Vichy continue à les soutenir. En face, il y a le commissariat général aux questions juives dont le rôle est d'appliquer, de faire appliquer et de durcir souvent la politique antisémite du régime de Vichy. Et il y aura donc des conflits à l'intérieur des ministères pour savoir si Vichy, régime hostile aux Juifs, peut ou pas continuer à aider ces écoles de l'Alliance. Ce sera quand même le cas jusqu'à la fin 1942 au moins, et des subsides parviendront aux écoles. Pendant ce temps-là, l'administration de l'Alliance à Paris, elle, est totalement démantelée. Elle suit le gouvernement dans une formation très réduite pendant quelques semaines à Vichy, puis elle en est expulsée. Les locaux de l'Alliance sont occupés par des troupes et des services nazis, et en particulier les services qui s'occupent du pillage des biens culturels, l'équipe de Alfred Rosenberg, et il en résultera le pillage complet de la bibliothèque et des archives de l'Alliance, non pas pour détruire ces documents, mais bien pour les incorporer à une gigantesque bibliothèque juive que les nazis vont créer pendant toute la période de la guerre, où ils réuniront des livres qu'ils ont pillés en France, en Belgique, en Hollande, en Grèce, par exemple. Pendant ce temps-là, l'Alliance est incorporée aussi de force, comme toutes les institutions juives, par la législation de Vichy, à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, et elle en formera la 7e direction consacrée à l'école. Mais en fait, c'est une coquille vide dans laquelle il ne se passera pas grand-chose, et les écoles de l'Alliance vont continuer à fonctionner de manière autonome un peu partout dans le monde, avec souvent de grandes difficultés, puisqu'elles ont des subsides plus limités, mais la solidarité locale et l'importance que les familles et les communautés sur place portent à ces écoles font qu'elles vont survivre pour la plupart. Pendant cette période, auprès du général de Gaulle à Londres puis à Alger, se trouve René Cassin, qui ne connaît pas l'Alliance, qui ne s'est jamais intéressé à cette histoire, mais qui va être chargé par de Gaulle de prendre en main les destinées de l'Alliance dès la présence des troupes de la France libre à Alger, et qui va donc reconstituer autour de lui l'Alliance dès la libération de Paris en septembre 1944, avec un fort lien au gouvernement provisoire de Gaulle.
Et alors, vous parliez des collections de l'Alliance. Comment ont-elles été récupérées et qu'est-ce qu'elles sont devenues, en particulier sa bibliothèque pendant la guerre ?
Alors, c'est évidemment, là encore, ça ferait l'objet d'une émission complète, mais on peut dire que donc il y a près de 700 caisses de livres qui sont volées, pillées et emportées depuis les locaux de la rue de la Bruyère, mais c'est ce qui va arriver au séminaire israélite de France, par exemple, rue Vauquelin, à de nombreuses bibliothèques privées, à des grandes librairies comme celle de Lipschutz. Donc il y a des milliers, voire des millions de livres qui quittent la France pour aller dans une bibliothèque pour la recherche sur les questions juives. Voilà ce que son nom, la traduction de son nom allemand, qui va servir à l'éducation des élites nazies dans l'université nazie. Cette bibliothèque se trouvera à Francfort. Quand l'Allemagne est libérée du nazisme avec l'arrivée des alliés américains, anglo-américains et français d'un côté, soviétiques de l'autre, on va retrouver des milliers et des milliers de cachettes pour ces livres et pour des archives. Du côté ouest, les Américains vont organiser un gigantesque lieu de rassemblement et de tri des livres et vont rapatrier tous les livres dont ils connaissent l'origine vers leur propriétaire. C'est comme ça que l'Alliance va récupérer dès la fin 45 et pendant presque une dizaine d'années, petit à petit, des livres qui lui ont été volés et qui portaient son estampille. Et les Soviétiques, eux, vont voler aussi des documents, des livres, des archives, mais eux, ils vont les stocker à Moscou ou dans d'autres endroits de l'Empire soviétique, et les tenir au secret pendant toute la période communiste. À l'effondrement du communisme, entre 1989-90, les chercheurs américains d'abord, français, israéliens, découvrent des stocks immenses d'archives ayant été volés dans les chancelleries, dans les cabinets, dans les lieux de pouvoir de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Autriche, etc., et qui dorment bien tranquillement dans des archives secrètes et spéciales à Moscou. Et il va ensuite se produire une période de négociation qui va durer encore quelques années pour que finalement le gouvernement français et le gouvernement russe arrivent à un accord pour rapatrier ces archives. Parmi elles, il y aura plusieurs dizaines de caisses d'archives appartenant à l'Alliance israélite universelle, à son école normale israélite orientale et à d'autres institutions françaises. Donc aujourd'hui, nous avons récupéré une partie de la bibliothèque, on ne sait pas combien, au moins la moitié, on va dire, de notre bibliothèque originelle. Et toutes les archives qui étaient encore présentes à Moscou sont maintenant disponibles et accessibles aux chercheurs dans nos locaux de la rue La Bruyère.
Et alors, depuis la guerre, quels ont été les principaux enrichissements de votre bibliothèque ? Donc, je pense en particulier aux archives Mendès France.
Oui, il y a eu de nombreux fonds privés. En fait, cette bibliothèque est une bibliothèque vivante qui continue d'acquérir des documents au quotidien, si j'ose dire. Et puis, il y a effectivement des dons remarquables, comme celui que le président Mendès France avait consenti à l'Alliance. Ce sont ses archives privées, ce sont ses archives généalogiques. Il était passionné par la recherche sur l'histoire de sa propre famille, les Mendès de França, depuis le Portugal, avant l'expulsion en 1497. Et aujourd'hui, cette mémoire est suivie de près par son fils Michel et son épouse Joan, qui ont fait un énorme travail avec les archives qui sont aujourd'hui à l'Alliance pour les rendre de plus en plus disponibles. Mais nous avons eu aussi, par exemple, le don de la famille de M. Elie Namias, qui était un grand collectionneur de documents très riches et très précieux sur l'histoire des Juifs de France et du domaine judéo-espagnol. Et nous conservons de nombreux fonds de savants passés et présents ou récemment décédés qui enrichissent très régulièrement les rayonnages de l'Alliance. Elle a évolué aussi, non seulement par ses collections, mais par la technologie, puisqu'on est passé dans les 20 dernières années au monde informatique et de plus en plus au monde numérique. Donc aujourd'hui, la bibliothèque de l'Alliance appartient au réseau commun qui s'appelle le réseau Rachel, qui inclut les catalogues des bibliothèques du séminaire israélite de France, du musée d'art et d'histoire du judaïsme, de la maison de la culture yiddish, bibliothèque Medem, et maintenant depuis peu du centre français des musiques juives. Tous ces catalogues sont lisibles en commun sur internet. Et cela permet de mieux accéder à nos documents. La bibliothèque est aussi très liée à des projets de numérisation internationaux. Elle appartient à un projet européen qui s'appelle Judaica Europeana, avec des bibliothèques d'une dizaine de pays d'Europe. Elle a participé à des programmes avec des universitaires canadiens, avec le musée de l'Holocauste à Washington. Enfin, elle se développe un peu dans tous les sens, comme un grand centre international qu'elle est pour la recherche, pour diffuser au mieux ses collections.
Alors, j'en profite pour vous demander de bien vouloir donner le site internet de l'Alliance qui permettra à la fois d'avoir des renseignements sur les activités actuelles et à venir de l'Alliance et de toutes les manifestations que nous allons aborder maintenant.
Alors, vous pouvez taper www.aiu.org, AIU comme les premières lettres d'Alliance Israélite Universelle, bien sûr. C'est le site central de l'Alliance qui vous dirigera vers un site de la bibliothèque, aiu.org/bibli, vers les sites des différentes activités, les écoles, les publications, le Collège des études juives, et vers une mémoire de l'Alliance également. De plus en plus, nous allons développer la possibilité sur ces sites, non seulement de consulter les informations, les descriptions des documents, mais les documents eux-mêmes. Et nous allons avancer vers la création d'un portail pédagogique de l'Alliance.
Alors, nous avons parlé du livre. J'en reviens au prolongement de l'exposition sur le 150e. Il y aura aussi des colloques. Que pouvez-vous nous dire d'ores et déjà des prochaines manifestations?
Alors, nous sommes déjà dans une période bien avancée de l'année 2010. Le programme a été très largement réalisé depuis le début de l'année, avec une série de colloques du Collège des études juives de Shmuel Trigano sur le judaïsme comme universalisme. Il y a eu précédemment des grandes rencontres en Israël avec le président de l'État juif, Shimon Peres, et une autre rencontre avec la Knesset. Il y a eu une grande manifestation au Palais des Congrès où la jeunesse juive s'est réunie pour rendre hommage à l'Alliance. Il y a eu cette exposition. Des colloques, un grand colloque à Nancy en octobre, un autre à Jérusalem. Et l'exposition et des semaines consacrées à l'Alliance vont se développer maintenant à Londres, dans quelques jours en novembre, à Marseille au mois de décembre, à Istanbul en janvier, vraisemblablement à Montréal aussi. Donc l'effet cumulé de toutes ces recherches, de tous ces témoignages aussi réunis, récoltés auprès des anciens de l'Alliance, va se poursuivre et on espère bien continuer à diffuser cette exposition dans différents lieux en France et également la rendre accessible sur nos sites grâce à la mise en mode virtuel de toutes ces informations.
Alors nous allons marquer une seconde pause avec une berceuse judéo-espagnole avant d'aborder vos projets pour l'année 5771. Alors donc, l'année, on le voit, est très chargée. Il y a aussi vos activités normales qui se poursuivent. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes du programme de la Bibliothèque de l'Alliance pour la nouvelle année juive ?
Il y aura beaucoup de choses à la bibliothèque et dans les autres départements de l'Alliance. Le Collège des études juives régulièrement crée des événements avec des colloques. Donc dans quelques jours, le 7 novembre, il y aura un colloque sur le thème « Qui a écrit la Torah ?». C'est un peu provocateur, mais c'est justement une grande réflexion sur l'évolution de la lecture et de la compréhension de la Torah.
Qui se passera
Alors, qui se passera au FIAP Jean Monnet, qui se situe rue Cabanis, mais là encore, tous les détails vous seront accessibles sur le site www.aiu.org ou sinon en appelant l'Alliance au 01 53 32 88 55. Le 17 novembre, la bibliothèque et le Collège des études juives ensemble présenteront un nouvel ouvrage qui paraît ces jours-ci de Paul Fenton et David Littman sur l'exil des Juifs qui retrace l'histoire des Juifs en terre d'islam, leur déboire et leur départ et qui s'inspire énormément d'archives trouvées à l'Alliance. Le 25 novembre, l'historienne Simone Mregen-Ohana présentera elle aussi un livre sur les Juifs du Comtat Venaissin, donc ces Juifs du sud de la France qui ont maintenu une présence sur le territoire national pendant si longtemps. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'activités qui vont se poursuivre. On pourra retrouver aussi, pour les prochains mois et à l'avenir, encore des effets des 150 ans de l'Alliance en allant simplement à la poste, par exemple, acheter un timbre au tarif ordinaire qui a été émis par l'administration des postes françaises en hommage à l'Alliance israélite universelle. Donc vous pouvez demander le timbre de l'Alliance dans vos postes préférés.
Et on le
préférés.
Trouve également en Israël et en France.
Et alors il y a un timbre différent mais qui a été émis par la poste israélienne et donc effectivement si vous voulez envoyer vos vœux ou tout ce que vous souhaitez à vos amis en montrant votre attachement à l'Alliance, utilisez ces timbres. Et puis je rappelle aussi que dans le courant de l'année, l'émission La Source de Vie du dimanche matin sur Antenne 2, sur France 2, pardon, de Josie Eisenberg a consacré deux épisodes à l'Alliance, à son histoire et son actualité. Et ces films sont réunis en un DVD qui est également accessible à l'Alliance. Et puis, l'Alliance est un organisme vivant aujourd'hui qui continue à se développer avec ses écoles en France en particulier, les questions d'une extension de l'école Georges Leven dans le 12e arrondissement de Paris. On a assisté à la création d'une classe préparatoire aux grandes écoles pour la première fois. Au collège-lycée des Pavillons sous bois en Seine-Saint-Denis. Il y a des développements prévus en Israël en particulier, avec le développement de Mikvé Israël. Et puis il y a l'ouverture prévue en 2011 du centre Alliance Edmond Safra, qui sera le renouveau du bâtiment très important pour notre histoire, qui est celui de l'École normale israélite orientale, dirigée pendant de très nombreuses années par Emmanuel Lévinas, et qui, rue Michel-Ange, au coin de la rue Michel-Ange et de la rue d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, ouvrira ses portes pour un auditorium, une synagogue, accueillir une école primaire, accueillir un institut de recherche sur les études juives et accueillir une grande bibliothèque, médiathèque, qui complétera l'offre déjà grande de documentation, et en particulier de documentation numérisée et électronique, pour tous les amoureux de l'histoire juive, de la culture juive, que l'Alliance tient à soutenir dans son activité future.
Donc 2011 sera une année très importante pour le développement de l'Alliance. Et je crois qu'il est temps de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs l'adresse actuelle de l'Alliance israélite universelle à Paris.
Donc toutes nos activités sont accessibles à partir du 45 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement. Le site www.aiu.org, le téléphone 01 53 32 88 55. Et nous vous attendons tous, anciens de l'Alliance et nouveaux, pour nos futures activités.
Monsieur Kopermink, merci. Merci à David pour la réalisation technique de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Bonsoir.
C'était de l'art et de la vie. Une émission créée par Fania Pérez, conçue et présentée par Francine Shapiro, proposée par la Galerie Saphir et ses 4 espaces d'exposition. La Galerie Saphir au Marais, 69 rue du Temple, l'espace Armode Saphir Monceau, 69 avenue de Villiers, et en Bretagne, à Dinard et à Bécherel. Ces 4 espaces sont ouverts du dimanche au jeudi. Pour tout renseignement, contactez le 01 42 72 61 19, 01 42 72 61 19.